Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Serge Schall, qui est un invité de Jérôme et qui va nous parler des arbres. Un bonheur pour... c'est dans la nature, bien évidemment. Bonjour, monsieur Schall. Bonjour, Serge, pardon. Et bonjour, Jérôme.
Oui, alors Serge, vous avez dirigé un ouvrage qui est absolument magnifique, il faut le dire. C'est un beau livre qui s'appelle « Arbres » au pluriel. C'est aux éditions Terre Vivante. J'ai envie de dire, il y a tout dans ce livre. C'est vraiment une vision encyclopédique de l'arbre. Il y a aussi bien l'histoire, la légende, la culture, la science, tout ce que les arbres représentent, tout ce qu'on en a appris, tout est là. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Qu'est-ce qui a guidé un petit peu la rédaction de ce livre?
Alors, je vous remercie d'abord pour les compliments. Alors, vous dites qu'il y a tout. Non, il n'y a pas tout, mais il y a de tout, parce que le sujet est immensément vaste. Et en fait, pour comprendre, pour présenter ce livre, il faut se référer peut-être à Graines, qui est sorti il y a 2 ans, exactement sur le même modèle. En fait, lorsqu'on a élaboré Graines, ça fait très longtemps, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous avions dans l'idée de faire un livre sur les graines, avec, vous avez cité Terre Vivante, mais c'est une coédition Plume de Carotte. Donc avec Plume de Carotte, on avait une idée de faire un beau livre sur les graines, mais chaque fois qu'on abordait le sujet, qu'on le développait, on en faisait quelque chose d'un petit peu trop botanique, un petit peu trop muséum d'histoire naturelle en réalité, et on s'est dit oui, c'est joli, c'est plaisant, mais ça va intéresser finalement assez peu de personnes, et on remisait comme ça régulièrement le sujet, on le remettait dans un tiroir, et puis on le ressortait tout aussi régulièrement, jusqu'à trouver la formule, à savoir qu'on a dit on ne va pas parler seulement de graines sur le plan botanique et scientifique, mais on va parler de tous les sujets qui nous passent par la tête, et on le trouve de l'espionnage, des faits divers, de l'histoire, etc., etc., pourvu qu'on puisse le rattacher à une ou plusieurs graines. Et donc la formule a très très bien marché, donc on l'a étendue cette année, l'année dernière maintenant, le temps file, à arbres, sur le même principe. On parle d'arbres, on n'a pas tout dit sur les arbres, et personne n'ira jamais tout sur les arbres, mais comme vous l'avez souligné, ça part un petit peu dans tous les sens, en feu d'artifice. C'est une espèce de fouillis apparent, parce qu'en fait il est très 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 structuré en coulisses, parce que pour faire ça, c'est quand même un sacré boulot de mise en œuvre. Et de la même façon qu'on a fait exploser tous les sujets, on a fait exploser également la maquette et l'iconographie. Et au lieu de nous en tenir à un seul style graphique ou un seul style d'iconographie, on trouve de tout également. Là, on ne peut pas le décrire à la radio, les lecteurs devront...
Non, on peut essayer, les photos sont sublimes, il y a des planches, des dessins.
Il y a des photos,
historique, Enfin, moi je dis, c'est à tomber par terre, c'est très...
Ah ben, c'est très gentil. Relevez-vous, parce que...
Donc la graine a germé, elle a donné arbre, qu'est-ce qui...
Exactement.
Alors, sans entrer dans les dérives modernes, mais qu'est-ce qu'il y a dans le rapport à l'arbre? Pourquoi on est aussi fascinés, nous les hommes, par l'arbre?
Pourquoi on s'est assez fasciné? D'abord parce qu'il nous a précédé, ce n'est pas le seul, et puis qu'il nous a accompagné, qu'il nous accompagne toujours dans notre vie de tous les jours, dans l'histoire de l'humanité. L'arbre, c'est une matière première, c'est une source d'énergie, c'est une source de nourriture, c'est une source qui satisfait, comme beaucoup de plantes, à tous les besoins de l'homme, c'est-à-dire avec des arbres, on peut se soigner, on peut faire des teintures, etc., etc. On peut s'abriter, on fait du charbon de bois pour l'énergie, on fait du bois de construction et du bois pour l'énergie. Enfin, il est là, il est omniprésent. Donc, Oui.
Oui. Non, finissez, je vous poserai la question après.
Donc, à partir de là, avec cet aspect, je dirais, bienveillant pour l'homme, il était tout à fait naturel que l'arbre soit entouré de tout ce qui est spiritualité également. Donc, c'est aussi une composante forte de l'arbre et de la forêt, puisque le peuplement de l'arbre, c'est la forêt.
Est-ce que vous pouvez me dire quel est le premier souvenir d'arbre que vous avez eu, le premier arbre qui vous a touché?
Alors, le premier arbre, c'est qu'on m'a confié un arbre, en réalité, quand j'étais tout petit. J'étais tout petit et en fait, je l'ai su bien plus tard que c'est le dernier arbre à faire pousser. C'était un broussonnésia, ce qu'on appelle un mûrier à papier. C'est un truc qui pousse tout seul dans les décombres. Et je me souviens très bien, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, où il y avait une dame qui habitait le village où on passait les vacances d'été, qui m'a dit « Tiens, tiens, ça c'est ton arbre, plante-le et occupe-t'en. » En fait, il n'y avait aucun soin, parce que je viens de vous le dire, ça pousse tout seul dans les décombres. Mais c'est le premier arbre que j'ai planté. C'est vrai que c'est assez émouvant, c'est assez... voilà, ça faisait partie aussi des vacances qu'on passait au Grand Air tous les ans, depuis que je suis tout petit dans le Luberon.
Ok, bah écoutez, en tout cas, c'est une très très belle histoire.
Alors, on vous a découvert avec votre arbre, puisqu'on vous a confié un arbre quand vous étiez tout petit. Cet arbre, il existe toujours ?
Non, il n'existe plus parce que l'endroit où je l'avais planté, c'était une ruine. Et puis, la ruine, elle n'existe plus non plus. Le temps passe et à la place, il y a une belle construction. Mais ça aurait pu être autre chose. On en parle dans le livre, d'ailleurs. On parle du sapin de Noël de Pif Gadget, je vais vous le compter assez rapidement. Pif Gadget, bon, les anciens s'en souviennent, les moins
ah oui,
anciens aussi, puisqu'il a reparu régulièrement, et puis il a reparu encore en août dernier pour une énième mouture. Et il y a une année, en fait, ils ont récidivé plusieurs fois, où ils ont proposé en gadget des graines d'arbres d'épicéa.
Ah oui, je l'ai eu celui-là.
Voilà. Et figurez-vous.
J'ai chauffé les graines sur le radiateur, là.
Voilà, et figurez-vous que il y a 3 ou 4 ans de ça, il y a un lecteur. Du côté de Toulouse d'ailleurs, qui a dit mais mon arbre il a bien poussé, je l'ai planté près de chez moi et maintenant il fait 12 mètres de haut. Et il s'est dit mais peut-être qu'il y a d'autres lecteurs de l'époque qui ont fait la même chose. Et il a lancé une petite bouteille à la mer sur le net et en fait il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées et qui ont effectivement, ils ont envoyé la photo de leur arbre qui a effectivement poussé, ouais. Il en a trouvé une quinzaine comme ça à travers la France, il y en a partout. Il y en a un dans le Vaucluse, à Grandbois, il y en a dans l'Est de la France, dans le Loiret, il y en a un petit peu de partout. Je raconte ça dans le livre L'Arbre. Vous voyez, donc, on parle de Pif Gadget aussi dans ce gros et luxueux livre qui fait un petit peu sérieux au départ. Quoi. Voilà, ça c'est
incroyable,
une très très belle histoire.
Incroyable. Donc je rappelle que vous avez dirigé cet ouvrage collectif Arbre, dans lequel j'ai appris que finalement, alors, le plus vieil arbre au monde... Ce serait chez nous, en France ?
Et alors,
il y a une découverte qui a repoussé de quelques millions d'années, parce que ça, l'arbre le plus ancien, c'est plus de 400 millions d'années, si j'ai bien lu.
Ah non, pas 400 millions, non. Ça, là,
40 millions ?
Non, on n'est pas. Les plus vieux arbres, on est quand même sur quelques milliers d'années.
C'est déjà,
là, vous confondez l'apparition des arbres et les records de longévité d'arbres qui existent encore aujourd'hui. Il ne faut pas confondre les deux. L'apparition de l'arbre en tant que phénomène botanique, on va dire, et les arbres qu'on a, je répète, sous les yeux encore, et qui sont de vénérables sujets. Non, alors. Il en est comme de tous les records, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu de chauvinisme, mais tout le monde essaie de tirer de son côté les records tous azimuts. Pour le moment, à ma connaissance, le plus vieil arbre connu, c'est toujours Mathusalem, et on l'a battu, Mathusalem, et il est en Californie, dans l'Ouest américain, dans les parcs américains. Donc c'est vieux pin, c'est un très très vieux pin qui a entre 4600 et 4800 ans.
Allez, l'apparition des arbres sur Terre.
Alors ça, c'est autre chose, mais ce n'est pas chez nous, forcément. Oui. C'est pour ça qu'en vous même parler de l'apparition des arbres, c'est autre chose. Mais ça ne s'est pas passé spécifiquement chez nous.
D'accord.
Et ça, c'est il y a des millions d'années, des centaines de millions
d'années. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et là, vous voyez que les deux sujets avec graines se télescopent un petit peu. Parce qu'il y a deux grandes inventions végétales dans la conquête terrestre, en fait, dont l'invention de la graine, qui est la deuxième apparition. La première invention, c'est l'invention du bois en tant que tissu végétal. C'est ce qu'on relate dans Arbre. Comme vous le savez, la vie vient des océans, vient de la mer. Donc, pendant longtemps, il y a eu des plantes toutes molles, toutes mollasses, des algues Lové, petit à petit, on a la nature, les végétaux ont inventé le bois pour devenir dur, pour se hisser, pour avoir cette posture dressée. Et à partir de, et bien plus tard après, il y a eu la deuxième invention qui est celle de la graine, et notamment,
D'accord.
puisqu'on parle arbres, ce sont les gymnospermes, c'est-à-dire les conifères hein, au sens large, les pins, les séquoias, etc., qui ont inventé la graine, eux. Et en inventant la graine, ils se débarrassaient de la fécondation avec la présence de l'eau obligatoire, qui était une survivance de notre vie, de la vie des plantes dans l'océan. Et à partir de là, ils ont marqué le retour impossible vers la mer.
D'accord, merci beaucoup. Là, on fait une petite pause et puis on vous retrouve très rapidement. Merci.
Serge Chasles, l'aventure d'Arbre, Arbre, ce magnifique ouvrage collectif donc aux éditions Terre Vivante continue. On peut pas. Moi, je suis toujours fasciné par l'aspect scientifique de la communication entre les arbres. Ça fait quand même partie des découvertes. C'est fin du XXe siècle. J'ai vu les premières découvertes sur le fait que les arbres communiquent entre eux.
Oui, ça date des années 70, 1970. C'est relativement récent. Et puis, depuis, les découvertes vont très, très, très vite. En deux mots, l'histoire, je pense qu'il y a pas mal de gens qui la connaissent, mais il est bon peut-être de la rappeler. C'est l'histoire des koudous, qui sont des antilopes en Afrique du Sud et qui sont élevés pour la viande. En fait, ce sont de très, très grands élevages dans d'immenses ranches, d'immenses fermes sud-africaines. Et un jour, on s'est aperçu qu'il y avait des koudous, donc c'est ces antilopes, qui se laissaient mourir de faim, qui avaient essayé de s'échapper d'ailleurs des enclos, et on n'a pas trop su pourquoi, jusqu'à leur autopsie. On n'a pas surtout pas su pourquoi, parce que les terres où ils vivaient, il y avait de grands arbres qui suffisaient de brouter, et non, ils se sont laissés mourir de faim. Et en fait, on s'est aperçu que les arbres, ces acacias, lorsqu'ils étaient broutés, c'est-à-dire lorsqu'ils se sentaient agressés, ils produisaient des tanins toxiques. Donc, ce qui fait
Ah oui.
que ça arrêtait net l'envie de brouter aux antilopes. Et ça, c'est la première observation. Mais il y en avait une qui était encore plus spectaculaire. On parlait de communication, c'est qu'un arbre qui était agressé transmettait des essences volatiles, des molécules volatiles, pour prévenir les arbres qui étaient à quelques dizaines de mètres de lui, à quelques mètres ou jusqu'à une dizaine de mètres de lui, et ainsi de suite. Donc, un autre arbre qui n'était pas du tout agressé avait le signal, le message, et se mettait à son tour à produire des tanins toxiques. C'était quand même assez, assez extraordinaire. Donc, depuis, je vous disais, les relations entre les arbres et les plantes, d'ailleurs, il n'y a pas que les arbres, et on s'est aperçu qu'ils échangent comme ça des messages. J'allais dire avec de gros guillemets, en tout cas de composés volatiles qui se diffusent à l'air libre, mais aussi qui communiquaient sous terre, toujours en émettant de ces espèces, de ces essences volatiles, mais aussi par le biais des mycorhizes. Vous savez sans doute que tous nos arbres sont, les arbustes, les grands arbustes, sont attachés à des champignons, avec une association assez spécifique d'ailleurs. Et donc il y a des échanges et de messages et de matière aussi, puisque ça va être on dirait aujourd'hui en marketing, une association gagnant-gagnant pour les deux partenaires.
Oui, c'est ça, parce que je disais que le champignon qui ne produit pas, qui n'a pas accès à la photosynthèse, qui ne produit pas de chlorophylle, pompe un peu l'énergie de l'arbre et s'en nourrit.
Il se nourrit ben, surtout des sucres et du carbone que va fabriquer, que va fixer l'arbre par la photosynthèse, effectivement.
Donc ils sont complémentaires.
Ils sont complémentaires. En retour, le champignon va lui proposer des cofacteurs, des vitamines et tout. Et surtout, il va lui permettre de jouer le rôle, en fait, toujours avec des guillemets, de système racinaire très, très puissant et très lointain. Parce qu'un arbre qui est même le plus grand arbre qui soit, il a un système racinaire relativement limité par rapport à sa longévité, alors que le champignon, lui, va se développer en long tapis de filaments qui va chercher dans le moindre interstice, le moindre recoin de sol, le moindre gravier, il va chercher et de l'eau et des éléments nutritifs. Donc, voilà, il sert un petit peu de prothèse racinaire, si je peux dire.
Serge Chasles, l'aventure continue avec Arbre, ce magnifique ouvrage collectif que vous avez dirigé, coordonné. Alors ça va puiser, on l'a déjà dit, dans la science, dans l'histoire, dans les représentations. L'arbre, il nous ressemble un petit peu, il ressemble aux individus et à la planète finalement humaine, parce que j'ai vu que par exemple on utilisait l'arbre dans des tests de psychologie hein, pour essayer de comprendre un petit peu, d'en apprendre sur quelqu'un, on invite la personne à s'identifier à un arbre, et l'arbre c'est aussi, ce sont aussi des légendes, c'est aussi de la publicité. L'ouvrage traverse toutes ces représentations, en fait.
Oui, bien sûr. On a déjà évoqué tous les mythes et toute la spiritualité qui est autour des arbres, et qui est toujours aussi forte, d'ailleurs. Ça n'a pas disparu, ça tend même à s'identifier en ce moment, dans des temps un petit peu troubles, hein, des temps un petit peu hésitants, on va dire. Donc oui, effectivement, l'arbre, de ce point de vue-là aussi, est le compagnon de l'homme depuis toujours. Il y a toutes les histoires païennes autour de l'arbre, il y a tous les rites, il y a tout le peuple de la forêt, il y a tout ce qu'on appelle le petit peuple aussi, hein, les lutins, les gnomes, etc., etc., les fées. Donc oui,
contes de Grimm liés.
Les contes aussi, bien sûr. Donc il y a tout un imaginaire qui est attaché à l'arbre et à la forêt. Hein, les deux sont indissociables depuis la nuit des temps.
Vous disiez il y a des dérives. C'est parce que dans les dérives aujourd'hui, c'est tout ce qu'on assimile à la sylvothérapie, au bain de forêt, etc. Là, c'est on dépasse un petit peu ce qu'on a.
Donc ça fait partie, ben oui, ça fait, alors c'est des dérives ou pas, j'en sais rien, mais je dirais il faut le recadrer à sa juste place, à sa juste valeur. Ça fait partie de toute façon de ce lien intime que l'on entretient avec l'arbre. Il ne faut pas le dénigrer non plus, il ne faut pas en attendre non plus tout. Voilà, donc ça fait partie effectivement du côté spirituel attaché à l'arbre.
D'accord. Alors, est-ce que les forêts aujourd'hui, vous en parlez un petit peu, sont menacées? Est-ce que, voilà, on parle beaucoup de biodiversité. J'ai lu que la plus ancienne forêt primaire d'Europe, c'est celle de Bielowitsa, la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, qui, je le dis au passage, abrite encore des bisons, la plus grande population de bisons d'Europe. Je ne savais pas qu'il y en avait encore des milliers d'individus dans cette forêt. Et cette forêt, elle abrite une biodiversité fabuleuse, puisque rien que les mousses elles-mêmes abritent un nombre des milliers d'êtres vivants, les arbres morts abritent la vermine qui nourrissent d'autres formes vivantes, etc. Est-ce que les forêts, les grandes forêts sont menacées, ou est-ce qu'au contraire, on retrouve à certains endroits de l'espace forestier? Est-ce qu'on trouve de nouveaux peuplements?
Alors, il y a de plusieurs questions dans la vôtre. Est-ce que la forêt, globalement, est menacée sur la planète? Oui, j'allais dire malheureusement, comme tout le reste. Donc, évidemment, sujet de convoitise, d'exploitation complètement éhontée et tout ça. Voilà, maintenant, ensuite, l'espace naturel, c'est-à-dire primaire, a considérablement réduit. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis que l'homme s'est installé, s'est fait agriculteur et depuis qu'il s'est multiplié aussi, hein, faut pas le nier. Donc, oui, globalement, c'est pas très bon tout ça pour la forêt. Ceci dit, il y a deux choses à souligner. Premièrement, c'est qu'il existe encore des parcelles de forêt primaire ou des expériences où on est en train de restaurer, déjà pour l'étude, des forêts qui sont baptisées abusivement primaires, parce qu'elles ne le sont plus, mais enfin des endroits qu'on laisse sans intervention de l'homme pour voir justement ce que ça donne. Il y a plusieurs forêts, il y en a en Allemagne, il y en a ici depuis 2021, une forêt de hêtres, la forêt de Massane dans les Pyrénées-Orientales, qui a été classée par l'UNESCO. Où on laisse faire. Là, alors on n'intervient plus, on ne touche plus rien, on ne prélève plus rien surtout, et on laisse en l'état pour voir ce que ça donne. Et ça, c'est quand même l'autre.
Ça, c'est un vestige de forêt primaire chez nous, en France.
Oui, tout à fait, de forêt de hêtre. C'est au sud de Perpignan, hein, c'est dans le massif des Albères, au-dessus d'Argelès, par là-bas.
Et donc, on a pu y aller où est-ce que l'endroit est prêt, où est-ce qu'il vaut mieux que l'homme n'y mette pas les pieds?
Je ne sais pas. Pour le moment, elle est encore ouverte, mais voilà. Alors, le deuxième point que je voulais souligner, c'est quand même la bonne question, c'est quand même la faculté de résilience de la nature en général, et de la forêt aussi, et qui peut finalement, d'abord qui est rassurante, qui est réconfortante, parce que la forêt nous survivra, et c'est aussi une source un petit peu de surprise et d'étonnement. C'est-à-dire que là, vous disiez tout à l'heure, là où il y a la forêt primaire ou jugée en reconstitution, il y a beaucoup de biodiversité, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas lorsqu'il y a un déséquilibre qui se poursuit par la nature, et bien c'est au contraire peut-être une chute de biodiversité. Là, on en revient un petit peu de dire on touche rien, on laisse faire la nature, etc. etc. Non, c'est pas souvent le cas. Moi, j'habite un département, le Var, dans le sud de la France, qui est un des trois les plus boisés, après les Landes et les Vosges, ou avant même les Vosges. Et le problème, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'il y a trop de forêt et que la forêt grandit trop tous les ans.
Ah bon?
Oui, tout à fait. Ben, la forêt française, elle a plus que doublé en un siècle. Hein, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, elle a doublé. Et nous, chez nous, la forêt varoise, du fait juste de la pousse des arbres, elle progresse de à peu près 800 000 tonnes de bois tous les ans. Ils ne sont pas à prélever. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a des grands arbres dans la forêt, ben, la lumière ne passe plus. Le milieu se ferme. Il n'y a plus de clairière. Et donc, quand il n'y a plus de lumière qui passe, eh ben, il n'y a plus de plantes dessous. S'il n'y a plus de plantes dessous, il n'y a plus d'insectes. S'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. S'il n'y a plus d'oiseaux, il y a moins de carnivores, de petits carnivores, etc. Toute la chaîne alimentaire est impactée. Au point qu'on finance ici et là quelques initiatives auprès d'agriculteurs pour qu'ils puissent débroussailler et puis faire paître leur troupeau de moutons pour éclaircir, au contraire, pour faire des clairières. Vous voyez, donc, il faut se méfier un petit peu des a priori. Une forêt trop dense, ça peut être aussi moins de biodiversité.
On vous retrouve pour conclure cette belle série à travers cet ouvrage Arbre, ouvrage collectif que vous avez dirigé, coordonné. Alors, on a parlé récemment des forêts primaires, des forêts protégées. Il y a des lieux remarquables qui sont protégés dans le monde avec des arbres incroyables. On pense à Sequoia Park aux États-Unis. Voilà, on pense à Madagascar, etc. Vous avez eu l'occasion de parcourir ces forêts remarquables?
Non, celle-ci, non. Là, d'aussi belles, non.
Voilà. Et parmi les forêts incroyables, alors il y a aussi ces arbres pétrifiés dans le désert de Namibie. Voilà, tout ça contribue au fait que on entretient une relation particulière avec l'arbre qui, comme vous le disiez, était là avant nous, sera là après nous. Mais vous parlez aussi dans le livre d'une histoire particulière qui est l'histoire des arbres en France. Vous parlez de plusieurs époques. La forêt a traversé plusieurs époques. Vous me disiez aussi récemment que finalement la forêt avait doublé depuis le début du XXe siècle en France. On est dans quelle époque aujourd'hui?
On est à quelle époque? On est dans la nôtre.
C'est, on n'est plus dans l'exploitation de l'arbre pour...
On est dans une
raisonnée de nos forêts.
Je vais peut-être reformuler votre question et de poser quelques jalons de l'histoire de la forêt française, enfin les grandes étapes, hein, tout du moins. On parle souvent on va remonter aux Gaulois qui sont, paraît-il, nos ancêtres. On parle toujours de la Gaule chevelue. Et on a toujours dans l'imaginaire une forêt très 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 dense avec les druides, avec tout ça, etc.
Et des fabricants de tonneaux.
Alors attends. Et oui, mais on n'y est pas encore. Attendez, vous allez un petit peu trop vite. La forêt française du temps des Gaulois, elle a été déjà pas si chevelue que ça. Elle était même clairsemée. Il faut attendre un petit peu plus tard, vers le Moyen Âge, pour qu'elle se reconstitue. À partir de là. la forêt reste un espace naturel, mais on trouve vraiment la place de l'homme dans la forêt et on trouve les premières traces des législations. On prend conscience qu'il va falloir quand même la gérer, pas faire n'importe quoi, pas prélever comme des dingues, comme ça a été fait, et comme ça sera fait d'ailleurs un petit peu plus tard, je vais vous le signaler. Et à partir du Moyen-Âge, on commence à dire il faut s'inquiéter de ne pas faire n'importe quoi. La première prise de conscience, elle est liée en fait à l'armée, hein, à la marine plus exactement, puisqu'au XIIIe siècle, quand Saint-Louis, et c'est lui qui sera l'initiative des premiers règlements concernant la forêt, ouais. Quand il part faire ses croisades, il s'aperçoit qu'il n'y a pas un seul bateau. La flotte est dans un état pitoyable et il est obligé, et ses successeurs feront la même chose pour aller faire la guerre, pour aller faire les guerres, ils sont obligés de louer des bateaux, figurez-vous, aux Génois. On part faire la guerre, on part faire les croisades et on n'a pas un seul bateau. Donc à partir de là, on s'est dit non, il faut une forêt pour fabriquer des bateaux. Et là, pendant très longtemps, et jusqu'en fait au 19e siècle, c'est-à-dire à partir du moment où les bateaux de guerre seront en acier et plus en bois, à partir de là, toute l'histoire de la forêt française va être liée à la marine, à la royale. Donc, et ça va être des arbitrages sans fin parce que la marine royale veut toujours plus de bois et du meilleur bois pour fabriquer des bateaux, qui seront régulièrement détruits au fil des batailles, des guerres, etc., etc. Mais il y a toute la population qui vit du bois et qui dit « oui, mais nous, on est là, on existe ». Et donc, on veut quand même prélever du bois pour se chauffer, pour comme bois de construction, etc., etc. Donc ouais. Voilà, ça sera que des arbitrages permanents et des guéguerres permanentes et des décrets permanents pendant des siècles et des siècles jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y a deux éléments à la fin du 19e siècle, c'est que d'abord, je viens de vous le dire, l'utilisation de l'acier. Pour construire les bateaux. Et le deuxième élément, ça va être la découverte du charbon de terre, de la houille, puisque jusqu'à présent, la forêt était considérablement exploitée pour produire du charbon de bois, qui était la première source d'énergie pendant des siècles et des siècles, au-delà de tout. Après, on découvrira le pétrole, donc ça ne fera qu'accentuer la chose, mais pendant longtemps, ça a été le charbon de bois. Charbon de bois à tel point que dans les grandes forêts, il y avait toujours une production très très localisée de charbon de bois. Mm-hmm. Donc on abattait les arbres et on faisait dans la foulée du charbon de bois. Et côte à côte, il y avait des forges. Immédiatement, il y avait des forges pour le travail du fer. Donc il y a cette trilogie, arbres, charbon de bois, forges, très 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 localisées. Et les charbons de bois, j'ai découvert beaucoup de choses en écrivant ce livre. Et des choses étonnantes, et notamment celle du charbon de bois, l'histoire du charbon de bois. Bon, je vous la fais très courte, j'en viens juste à la conclusion, c'est que les gens qui appelaient charbonniers, donc qui produisaient le charbon de bois, qui était stratégique en fait, hein, comme aujourd'hui le pétrole, on pourrait dire, ou le gaz, c'était stratégique, donc ils avaient un certain pouvoir. Et ils avaient surtout un savoir-faire, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire un bon charbon de bois de qualité, qui va servir donc au travail du fer, aux aciéries, qui servira plus tard au 19e siècle, 18 et 19e siècle, avec l'industrialisation pour faire tourner les machines à vapeur, etc. Bon, et ils étaient tellement puissants qu'ils se sont organisés en une espèce de franc-maçonnerie. Ça s'appelait la Carbonaria. Ils se baptisaient Bon Cousin Charbonnier. Et ils étaient le même culte du secret, de l'entre-soi, etc., etc. Après, ils se sont ouverts à l'occasion de la découverte de la houille. Ils ont ouvert leur horizon et c'est devenu vraiment, on dirait un lobby aujourd'hui, un courant et politique et de pression et d'influence. Ils se sont mêlés de tout, de politique, de la société, de tout. Et ils étaient à ce point puissants, c'est qu'ils ont soutenu et aidé Garibaldi à instaurer la République en Italie. Vous voyez, donc, de simples charbonniers, ils sont devenus très, très, très puissants. Voilà, ça, c'est étonnant de voir l'importance et la puissance qu'avait le charbon de bois. Pour nous, c'est que le barbecue aujourd'hui. Hein. C'est trois merguez, le barbecue, et puis c'est tout. Mais non, pendant des siècles, ça a été stratégique.
Très bien. Bah, écoutez, un énorme merci, Serge Chal. Si vous êtes amoureux des arbres, moi, je vous conseille de vous procurer ce livre, Arbre aux éditions Terre Vivante. Vous traversez beaucoup de choses, y compris la façon dont le bois fait irruption dans notre vocabulaire. Donc je touche du bois pour que tout se passe bien pour les forêts de demain. Eh bien écoutez, manger avec les chevaux de bois et vous serez heureux.
Eh bien, je vous remercie et bonne lecture encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce livre.
Oui, énormément de choses. Oui. C'est vraiment très, très agréable à parcourir. Merci, Serge Chal.
Merci à vous.